Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, peut-il y avoir des hommes féministes? Notre partenaire, l'Obs, publie aujourd'hui un dossier sur les féminismes avec une interview de l'historienne Christine Barr, augmentée d'un portrait de Marlène Schiappa. L'occasion pour nous, avec Eric Eschiman de l'Obs, que je salue, bonsoir Eric.
Bonsoir Emmanuel.
De nous interroger sur la place des hommes dans le combat féministe. Pour en parler ce soir, l'historien Yvon Jabloka, auteur au Seuil des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités, dans lequel il s'affirme féministe. L'anthropologue Mélanie Gourarier, autrice de Alpha Mâle, c'était donc il y a 2 ans maintenant aux éditions du Seuil encore, et puis la sociologue Aurore Coquelin, qui est autrice chez Amsterdam de La Révolution Féministe, qui vient tout juste de sortir, ainsi que Constance Estienne, que je remercie d'être avec nous, elle est étudiante en master en sociologie à l'École des Hautes Études. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Une question d'abord à vous, Yvon Jabloka, vous prenez des risques en sortant un livre comme « Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités » dans lequel vous vous affirmez donc comme féministe. On connaît les hommes dans les mouvements féministes, et il y a d'ailleurs eu un très beau travail d'Alban Jacquemart sur cette question-là, qui s'intéressait à ces hommes qui, depuis le début, accompagnent les féministes dans leur combat. Qu'est-ce qu'un homme féministe ? Par différence peut-être, ou par augmentation par rapport à ce qu'est un homme dans un mouvement féministe.
Mon livre, c'est d'abord une réflexion sur la domination masculine et les moyens d'en sortir. Donc j'ai commencé par une enquête historique sur les sociétés patriarcales et notamment leur avènement, il y a très longtemps. Et puis j'ai essayé de doubler ma réflexion d'un traité politique d'une certaine manière pour définir une nouvelle utopie. Et cette nouvelle utopie, ce serait des masculinités compatibles avec les droits des femmes et les droits de tous les hommes. Et c'est vrai qu'à la fin de mon livre, je dis que je suis féministe, et j'ai même dit que je suis une féministe, pour marquer ma solidarité et non pas pour usurper la place des pionnières, des militantes et des intellectuels dont je m'inspire tout en les citant bien sûr. Donc le fait qu'un homme se dise féministe, je comprends que ça puisse susciter une forme de méfiance, tant il est vrai que pendant presque 2 siècles, les femmes ont dû lutter seules. Mais le pas de côté que je fais, c'est que je suis certes féministe, mais au fond, c'est pas le centre de mon livre. Le centre de mon livre, c'est essayer de penser le patriarcat et surtout réfléchir à des nouvelles masculinités. Je dirais que c'est un peu ma part du travail.
Vous dites dans votre livre, dans un chapitre consacré justement à cette question des hommes féministes, on peut expliquer le féminisme des hommes par l'amour, par l'empathie, par l'intérêt, par l'utilité ou par la stratégie, on y reviendra, mais cela n'en retire pas la quête de justice. Votre question, c'est de dire on peut faire un féminisme éthique.
Je pense que le féminisme, ça commence par une révolte. Enfin, en ayant lu beaucoup de féministes femmes, j'ai eu l'impression que ça commençait par une révolte. Cette révolte est aussi la mienne, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'un monde tel que le nôtre. Je l'ai pas envie pour moi, pour mes filles, pour les femmes qui sont autour de moi, pour les hommes eux-mêmes. Donc ça part d'une révolte au sens de Camus, ce qui fait pas de moi un homme juste naturellement, mais en tout cas, ça explique le début de ma réflexion. Mais il y a certes des hommes féministes, mais on peut surtout dire qu'il y a une immense majorité d'hommes qui ne sont pas féministes. Et ça me paraît intéressant de s'interroger sur leur silence, et notamment leur silence après MeToo. Pourquoi tant d'hommes sont restés si silencieux alors que MeToo posait des problèmes, des questions fondamentales sur les masculinités contemporaines?
Eric Eschiman.
J'ai l'impression que vous tentez, et c'est ce que je trouve intéressant dans toute cette dernière partie, de mettre en tension ce qui me paraît 2 éléments de la question d'un homme féministe. D'une part, la question de l'engagement dans l'action. Et là, peut-être qu'on peut entendre les réticences à dire ça, c'est aux femmes de mener l'action. Et il y a une nuance qui s'établit entre pro-féministe ou allié du féministe et féministe. Et puis féministe dans un sens d'un homme, d'une masculinité. Je ne sais pas si je suis forcément à l'aise avec le terme d'une masculinité timide, mais d'un homme qui veut agir différemment et ne pas avoir un agir de domination. Et vous réfléchissez notamment à ce qui peut se passer dans la vie quotidienne. Et ça, c'est vraiment je trouve très intéressant que vous parliez de ça. Par exemple, dans le couple, et vous avez cette formule que je trouve qui, à mon avis, ouvre des perspectives en disant que le féminisme doit respecter les compromis de couple et les compromis de couple doivent aussi respecter le féminisme. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tension entre les deux champs à laquelle il n'y a pas forcément de réponse ferme et stable à donner, mais que vous ouvrez. Est-ce que c'était bien ça ce que vous visiez?
Oui, en effet, j'ai essayé de définir une morale du masculin. Alors donc là, ça renvoie à des comportements privés. Et immédiatement, je dois dire qu'il faut associer à la morale du masculin une réflexion systémique. C'est-à-dire le patriarcat, c'est un système. Et on peut pas abolir un système par une manifestation ou par une loi. Il faut le remplacer par un autre système. Mais pour en revenir à ces aspects plus individuels, c'est vrai que j'essaie de réfléchir à ce que j'appellerais une morale du masculin. C'est-à-dire une manière dont les masculinités pourraient s'associer à la justice, justice de genre, aussi bien dans les assemblées que dans les transports, que dans la rue et en effet dans le couple et dans la famille. Alors j'essaye de passer en revue toutes ces sphères sociales qui sont aussi des moments d'expression du pouvoir masculin pour essayer de penser celui-ci, de le limiter bien sûr et plus généralement de complexifier les masculinités.
Mélanie Gourarier, vous êtes donc anthropologue, vous êtes donc au centre chercheuse, chargée de recherche au CNRS et en particulier au LEGS, c'est à Paris 8. Vous êtes donc autrice de ce livre il y a 2 ans, Alpha Male, dans lequel vous vous intéressiez à cette masculinité, on pourrait presque dire outrancière, en tout cas qui se revendique comme telle, de tous ceux qui veulent combattre pour la séduction masculine et qui pensent justement à la place de l'homme en tant que séducteur des femmes et qui... pourtant, travaillent en homosocialité entre eux, etc. Dans le livre d'Yvan Jablanca, il évoque cette crise de la masculinité, dont ça pourrait être justement un des aspects, cette masculinité très, très formelle et très affirmée de ceux qui sont des masculinistes, pourrait-on dire. Est-ce que vous croyez justement que nous sommes dans une crise de la masculinité ou est-ce que vous croyez que nous sommes dans des moments justement de bousculement qui ne sont pas des crises, mais qui permettent aussi aux hommes de garder encore le pouvoir?
Oui, une des choses que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'était de montrer justement, enfin d'interroger la réalité sociologique et historique de cette crise. Et du coup, j'ai pris très au sérieux les discours des hommes sur lesquels j'enquêtais, qui effectivement me disaient qu'on vivait une crise sans précédent de la masculinité. Et je me suis dit très bien, alors si on vit une crise de la masculinité, je vais la dater, je vais essayer de voir quand est-ce qu'elle commence. Et en travaillant sur avec les textes d'historiens qui se sont intéressés aux discours de crise, je me suis rendu compte que à chaque fois qu'un historien s'intéressait à cette question, il faisait émerger à toutes les époques
une crise.
Donc la question, à partir de là, je me suis demandé, bah, si cette crise elle est récurrente, est-ce qu'on peut vraiment parler de moments de crise? Et plutôt que de dire effectivement là nous vivons une crise, je me suis posé la question de qu'est-ce que ça produit effectivement.
Ce discours de crise.
Voilà, ce que produit effectivement ce discours de crise. Et il me semble que il y a une efficacité sociale en fait de faire croire que nous sommes constamment que nous vivons une crise de la masculinité, enfin d'évoquer cette crise, puisque on fait appel en fait à l'idée ou à la peur qu'il y aurait un ordre social qui serait menacé, l'ordre de genre notamment. Et cette évocation permanente de cette menace sur l'ordre de genre, à mon sens, permet plutôt sa reconduction et son maintien. Voilà.
Et qu'est-ce que vous en pensez, Yvan Jablanca? Parce que vous pensez quand même qu'il y a une crise de la masculinité aujourd'hui. Est-ce que vous inscrivez justement dans cette longue lignée qui remonte d'ailleurs au 19e siècle pour beaucoup d'hommes qui disent bah oui, il y a une crise de la masculinité?
D'abord, je voudrais rendre hommage au travail de Mélanie Gourarier. J'ai lu Alpha Male et j'ai trouvé que c'était une contribution importante à l'anthropologie de la masculinité et même des mouvements masculinistes. Et je suis parfaitement d'accord avec elle. Il n'y a pas de crise de la masculinité. Il y a plutôt une pseudo-crise de la masculinité parce que aujourd'hui comme hier, ça reste un atout d'être un homme. Il est plus facile aujourd'hui, socialement, d'être un homme que d'être une femme pour plein de raisons, notamment parce que l'espace public, la ville, les entreprises sont globalement pensés par et pour les femmes. Les hommes, les hommes, bien sûr. Et donc, en revanche, donc il n'y a pas de crise de la masculinité. En revanche, je dirais qu'il y a une montée des doutes. La montée des doutes est liée à des facteurs exogènes qui n'ont rien à voir avec le féminisme. Par exemple, la désindustrialisation ou la montée du chômage de masse ont pu ébranler certaines formes de masculinité populaire. Mais là où je suis complètement d'accord avec Mélanie Gouarier, c'est l'idée que cette pseudo-crise de la masculinité, c'est en fait une manière de lutter, et souvent maladroitement, contre les revendications d'égalité et de liberté portées par le féminisme. Donc si certains hommes se sentent mal à l'aise ou parfois se disent victimes, c'est bien souvent qu'ils n'étaient pas préparés à l'avènement d'une société de l'égalité.
Plus égalitaire. Simplement.
Le masculin n'incarne plus la norme, le masculin n'incarne plus la modernité, et je comprends que ça rende des hommes gênés ou parfois en colère.
N'incarne plus la norme, enfin c'est peut-être en cours, mais c'est encore le cas. Il y a encore une grande norme masculine ou masculiniste dans nos sociétés.
C'est vrai, c'est vrai. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, la norme dans une société démocratique, c'est se battre pour l'égalité, pour la liberté. Et ça, je crois que c'est une norme démocratique qui est portée par les femmes bien plus que par les hommes.
Aurore Coquelin, dans votre livre qui vient de paraître chez Amsterdam et qui s'intitule « La révolution féministe », je rappelle que vous êtes doctorante en sociologie à Paris 1, vous insistez sur l'idée qu'il y aurait une quatrième vague du féminisme. Alors, il faut peut-être résumer les trois vagues précédentes. Donc la première remonte à la fin du 19e siècle, au début du combat des féministes pour les droits, en particulier le droit de vote. La deuxième remonterait à l'après-seconde guerre. Non, même pas, plus tard, elle remonterait dans les années 70. Et puis la troisième serait encore plus récente. Pourquoi y aurait-il besoin d'une quatrième vague du féminisme aujourd'hui, selon vous?
Alors, je ne sais pas s'il y a besoin d'une quatrième vague du féminisme. Moi, ce que je fais, c'est une analyse qu'elle existe, on va dire.
Elle est déjà là.
Elle est déjà là. Alors, on sent pas forcément ses effets encore tout à fait en France, mais on constate qu'à l'échelle internationale, depuis le début des années 2010, on a une reprise des luttes féministes dans des dimensions incroyables, en particulier en Amérique latine. L'Amérique latine montre la voie, notamment l'Argentine, avec des centaines de milliers de femmes qui descendent dans la rue contre les féminicides pour revendiquer le droit à l'avortement. Mais c'est le cas aussi en Espagne, en Italie. En fait, on voit qu'il y a une contagion un peu internationale de la mobilisation féministe. Et cette quatrième vague, elle présente un certain nombre de traits communs. Moi, dans mon livre, je dis un peu en plaisantant que la quatrième vague, c'est la synthèse des deux précédentes. Elle reprend le meilleur de la deuxième et de la troisième vague. Le meilleur de la deuxième vague au sens où c'est une mobilisation qui s'inscrit directement comme une mobilisation de masse, avec par exemple pour le 8 mars dans l'État espagnol, 5 millions de personnes qui descendent dans la rue. C'est incroyable. Et elle reprend la troisième vague, cette nécessité de penser un féminisme inclusif notamment des personnes trans, des minorités de genre, des personnes voilées et des travailleurs et travailleuses du sexe.
Et des hommes?
Alors,
ça, c'est une question.
Effectivement, pour oui, revenir plus sur les débats, et des hommes, mais on va dire de pas n'importe quels hommes. En tout cas, moi, c'est ma position. Je ne sais pas si l'ensemble des féministes de la quatrième vague seraient d'accord avec ça. C'est ce que je défends. C'est que j'estime que à partir du moment où l'immense majorité des hommes, en fait, dans nos sociétés, sont opprimés sous d'autres axes de domination, que ce soit de classe ou de race, eh bien, c'est des alliés spontanés des femmes parce qu'ils ont les mêmes intérêts à renverser ces dominations.
Éric Hachiman et puis Constance Etienne.
Mais du coup, je me demandais si vous alliez continuer la phrase. C'est des alliés potentiels, mais ou vous rajoutez un mais ou pas sur cette. Et est-ce que c'est si important que ça, cette question de savoir si les hommes peuvent être des alliés, peuvent être pro-féministes? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je pense que c'est important pour des raisons stratégiques, qui est qu'à l'heure actuelle, on a un certain nombre de luttes dans des secteurs et autour de revendications qui sont relativement éparpillées. Et on a aussi une analyse des dominations sociales qui tend aussi à l'éparpillement. Et je pense qu'à un moment, c'est important de à la fois montrer les spécificités de chaque rapport social de domination et de montrer aussi que malgré tout, il y a une unité de ces rapports de domination et qu'il y a un intérêt global de l'ensemble des personnes qui sont opprimées par ces rapports de domination à s'allier. Mais le mais est là, et là vous aviez raison, il faut un certain nombre de garanties. Là aussi, je pense que ce que nous a montré la deuxième vague du féminisme, c'est qu'il y avait une nécessité d'avoir des organisations féministes autonomes.
Garantie par exemple que dans les discussions, eh bien, ça ne soit pas toujours, comme je viens de le faire, les hommes qui reprennent la parole par exemple.
Par exemple,
ou qui prennent la majorité du temps de parole alors qu'ils sont minoritaires dans les associations.
Du coup, qu'il y ait des moments de non-mixité, qu'ils soient des outils qui permettent de libérer la parole, tout ça c'est un ensemble de garanties justement.
Constance Etienne, justement, cette question des alliés vous intéresse. Je rappelle que vous êtes étudiante en sociologie, donc à l'École des hautes études en sciences sociales, militante féministe vous-même. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette question de les hommes peuvent-ils être les alliés, peuvent-ils être féministes dans des mouvements féministes?
Faut rappeler déjà que si on parle d'hommes, cis, encore une fois, donc ça veut dire déjà donc des hommes qui sont dès la naissance assignés comme hommes. Il y a le mot de privilège qui n'a pas encore été sorti ce soir. Je pense que de par leur privilège, quand bien même...
Si, Yvan l'a dit quand même. Oui.
Non, il l'a dit atout.
Atout, pardon.
Petits atouts.
Oui. On n'était pas très loin.
Oui, mais alors privilège, enfin voilà. Les privilèges qui sont... structurel bien sûr. Je pense que du coup les hommes peuvent être beaucoup de choses auprès du mouvement féministe. Comme vous l'avez dit, Yvan, vous proposez donc du coup de remettre en question le patriarcat. Et donc dans ces cas-là, on peut se dire anti-patriarcal, anti-sexiste. Mais je pense que féministe, on peut se la préparer. Enfin, nous femmes, on peut s'approprier. Et je pense et que pour le coup, je pense que s'il y a bien des hommes qui peuvent se dire féministes, c'est peut-être les hommes trans qui ont la légitimité parce que assignés femmes à la naissance, donc qui aient vécu en fait les expériences.
Assignés hommes.
Non, les hommes trans sont voilà, sont des personnes assignées femmes, qui sont hommes et qui sont assignés femmes à la naissance. Donc je pense qu'ils peuvent aussi donner beaucoup de conseils, peut-être pour les hommes cis qui veulent se rapprocher du mouvement féministe déjà. Et je pense que allier peut être déjà pas mal, et que en parlant de en ce moment, comment ça se fait que depuis le MeToo, les hommes sont silencieux, peut-être que c'est la première chose à faire, se taire et écouter. C'est pas seulement une libération de la parole, c'est aussi une libération des oreilles.
Oui, ça c'est une bonne question. Effectivement, Yvan Jablonka, se taire et écouter. Alors, vous parlez, vous.
J'ai parlé d'atout, mais je parle aussi de privilèges. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il y a des privilèges masculins, et ça montre bien que, en ce sens, la Révolution française n'est pas terminée. La Révolution française a prétendu s'attaquer aux privilèges de classe, et notamment à ceux des nobles. Mais la Révolution française s'est assez peu attaquée aux privilèges masculins. Et en ce sens,
On peut même dire d'ailleurs que pendant la Révolution française, il y a eu une sorte de révolution à l'intérieur de la Révolution qui a réenlevé le pouvoir qu'avaient pu conquérir pendant un certain temps les femmes et qui a réassigné les femmes à un rôle en particulier dans le foyer.
Donc la Révolution française est terminée, mais pas la Révolution féministe à laquelle elle a donné naissance. Donc oui, il y a évidemment des privilèges masculins. Ça va être par exemple la légitimité de parole, dont je suis un bénéficiaire indirect, ou le fait que c'est plus facile pour un homme d'assumer une position d'autorité ou de pouvoir, ou il y a aussi une forme de domination dans l'espace public. Il suffit d'entendre les femmes qui racontent que quand elles se baladent de jour, mais aussi de nuit, elles ont en quelque sorte besoin de scanner l'espace public pour voir d'où vient le danger. Là, il y a évidemment un privilège masculin.
Mélanie Gouarayé, sur ces questions justement de relations et de privilèges entre les genres, entre les sexes dans notre société.
En fait, moi je voudrais revenir sur ce qui a un peu été dit sur la pluralité des masculinités, et il y a les travaux quand même de Bell Hooks sur le patriarcat, où elle incitait les hommes, elle disait que c'était un impensé un peu du féminisme que les hommes avaient tout intérêt à endosser la cause féministe, mais il me semble qu'elle parlait d'un certain type d'hommes. On le voit lorsqu'elle parle des hommes qui ont recours à la violence ou d'hommes qui sont alcooliques, qui sont soumis comme qui sont sous l'emprise de la drogue, etc. Donc il me semble qu'elle parle d'hommes qui sont socialement déclassés. Et encore une fois, je pense que Là, c'est la question de la convergence convergence des luttes ou d'une dimension intersectionnelle de la question féministe. C'est que
Il faut peut-être expliquer à nos auditeurs.
Donc, en gros, l'intersectionnalité, c'est comment est-ce qu'on se positionne dans l'espace social en fonction de plusieurs qualités. Il y a la question du genre, mais il y a la question de la classe, la question de la race, la question de l'âge. Voilà.
Peut-être j'en ai oublié. L'état de santé.
L'état de santé, oui, pardon, merci.
Au handicap.
Le handicap. Il me semble qu'on ne peut pas évaluer de la même manière les hommes qui s'engagent ou qui se disent féministes lorsque eux-mêmes sont des hommes en position infériorisée eux-mêmes et des hommes qui sont en position majoritaire. Et là, encore une fois, il y a aussi, à mon avis, une distinction nécessaire entre une compréhension théorique de l'engagement des hommes dans le féminisme et ce qu'on peut constater en pratique. Qu'est-ce qui se passe en pratique quand on a des hommes dans les mouvements féministes?
Qu'est-ce qui se passe en pratique?
Eh bien, les enquêtes
que je disais tout à l'heure
qui ont été menées sont justement nécessitent justement de prendre beaucoup de distance. Je pense aux travaux de Léotière Vidal qui a travaillé sur des hommes qui essayent de transformer leur subjectivité pour devenir féministes. Et ce qu'il observe dans des groupes non mixtes, d'hommes qui se réunissent pour parler de ce qui relèverait d'une condition masculine féministe, eh bien, systématiquement, ces hommes-là vont s'auto-centrer sur une souffrance spécifiquement masculine et donc masquer la souffrance des femmes. Et en plus, ça a pour effet, un tel positionnement, de nécessiter peut-être un regain de sollicitation du care de la part des femmes, puisque des hommes qui sont en souffrance peut-être ont besoin d'être soignés, que le travail de care se fait majoritairement par les femmes.
Yvan Jablonka ?
Il me semble que tous les hommes, en tout cas beaucoup d'hommes, touchent les dividendes patriarcales, comme dit Raewyn Connell. Donc, c'est pour ça qu'on peut mettre en place ce que j'appelle une contre-masculinité privée et publique, qui consisterait à être particulièrement vigilant vis-à-vis des manifestations de masculinité de domination. Cependant, un homme a aussi d'autres identités. Un homme, c'est pas simplement un mâle dominant. Ça peut être aussi, dénoncé ou humilié à d'autres titres. Hein. Ça va être par exemple les homosexuels ou les Noirs aux États-Unis ou les Juifs, hein, dont je fais partie. Donc, à cet égard, je suis au croisement de masculinité de domination par ma position sociale ou de classe ou de genre, mais je croise aussi d'autres masculinités qui sont dominées. L'intello, le bouffon dans les cours de récré, le juif, je le disais à l'instant. Donc, un homme juste, c'est d'abord quelqu'un qui essaye de trouver sa juste place dans les luttes féministes. Et en ce sens, je suis bien conscient de l'importance de faire ce pas de côté.
Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves.
Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un temps du débat qui pose aujourd'hui à 18h42 avec l'Obs et Eric Eschiman de l'Obs qui est notre partenaire aujourd'hui. La question de savoir s'il y a la possibilité d'avoir des hommes féministes. Nous sommes en compagnie d'Yvan Jablonka, de Mélanie Gouarier, d'Aurore Coquelin et de Constance Etienne. Et ce que vous venez d'entendre, c'était peut-être pas tout à fait évident, c'est évidemment l'hymne des femmes, donc du MLF, mais aussi la deuxième version, c'était celle qui était chantée dans les tribunes des matchs de foot de la Coupe du Monde féminine, c'est-à-dire l'endroit masculin par excellence ou supposé comme tel qui était reconquis par la voix des femmes qui chantaient le chant du MLF. Qu'est-ce qu'on peut penser de cela, Aurore Coquelin? C'est-à-dire que des lieux masculins comme le stade, par exemple, qui sont encore interdits dans beaucoup de pays du monde aux femmes, et c'est encore le cas, par exemple, en Iran, ces lieux peuvent être là aussi des lieux du féminin.
Oui,
du féminisme, d'ailleurs.
Effectivement, les luttes féministes, elles nous poussent, nous aujourd'hui, à nous réapproprier des espaces dont on est exclu par la société. Et c'est un bon exemple, cette réappropriation, justement, dans un lieu où on attendrait tout, sauf d'entendre un hymne féministe que brusquement il s'élève. Donc effectivement, je pense que c'est un bon exemple.
Constance Estienne, justement, c'est ces lieux qui, je ne sais pas si on parle de conquête, de reconquête, qui sont enfin partagés alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant.
Je pense que ça fait partie de toute la question de la troisième ou quatrième vague, où en fait on commence à voir dans des luttes intersectionnelles des espaces qui sont conquis et un féminisme parfois qu'on qualifie de rue, notamment le fait que maintenant on a des mobilisations de plus en plus fortes dans des espaces qu'on arrive à conquérir. Et je pense que c'est plus que nécessaire, parce que le féminisme, c'est pas seulement un féminisme de chair comme on est ce soir témoin. Donc je pense que c'est tout à fait légitime et nécessaire aujourd'hui.
Éric Eschiman.
Alors moi, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs hommes qui nous écoutant doivent se dire bon, et moi, qu'est-ce que je peux faire ? En posant la question, Emmanuel, c'est un peu ce que vous visiez, j'imagine.
Bah, oui.
Et c'est évidemment une question que plein d'hommes se posent. Donc j'entends bien les. Donc du coup, je peux me faire leur porte-parole. J'entends bien les plus que réticences, et même chez Mélanie Gouin-Harrier, une sorte d'opposition au fait que les hommes puissent être féministes, au sens où, au fond, ça serait toujours une tentative de se remettre au centre du jeu. Et cette idée qu'il faut se taire et écouter, et qui me paraît une idée forte et intéressante, mais au fond, est-ce que il y a aussi des malgré tout un dialogue qui peut se nouer, est-ce qu'il y a des passages de savoir aussi qui peut se faire, parce que je pense qu'il y a quand même qu'il y a je sais pas s'il y a une souffrance masculine, puis j'ai un peu du mal sur cette notion de masculinité en général, mais il y a des gens qui se posent des questions, il y a des hommes qui se posent des questions.
Mélanie Gouin.
Et est-ce qu'il y a un transfert comme ça de savoir, de réflexion qui peut se faire d'un genre à l'autre?
C'est ce qu'encourage Spivak, féministe indienne, se taire et écouter. Donc effectivement, une des voies possibles pour les hommes, ce serait de se former au savoir féminin et féministe, peut-être. Il existe beaucoup d'autrices qui ont écrit, donc féminiser en quelque sorte la culture, les savoirs, se référer davantage au savoir des femmes. Ce serait une manière pour les hommes peut-être de se former à la question du féminisme. Je suis pas contre du tout le fait qu'il y ait des hommes qui soient des alliés au féminisme ou qui se disent féministes. Et je suis anthropologue, je constate ce qu'il se passe quand effectivement des hommes se déclarent comme alliés à la cause féministe.
En le disant comme anthropologue, ça a un effet, parce que là on pose une question normative. Hein, les hommes peuvent-ils être féministes? Je pense qu'on l'entend comme est-ce souhaitable ou pas. On n'est pas dans une logique d'anthropologie. Et en tant qu'anthropologue, vous nous apportez le regard sur l'effet que ça fait, mais on a envie de vous demander, et est-ce que on peut aller au-delà de ça, ou au fond, est-ce que là, il y a une impasse?
Alors, est-ce que c'est souhaitable? Ma réponse en tant que féministe, oui. C'est oui, à la manière de Bell Hooks. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt de certains hommes, particulièrement, à défaire le patriarcat. Ce que je constate, hein, c'est les limites de l'engagement des hommes. Quand des hommes se déclarent comme féministes, ça ne se joue pas nécessairement en faveur de l'égalité. Je dirais pire encore, il peut s'agir d'une ruse du
patriarcat.
Oui. Aurore Coclas, vous partagez la même.
Oui et non en même temps.
Réserve.
C'est-à-dire que si on en reste juste à des déclarations de principe, effectivement, il y a une limite. Se déclarer féministe, en fait, n'importe qui peut le faire. Mais moi, ce que je demanderais aux auditeurs qui nous écoutent, c'est de pas en rester uniquement à la déclaration, mais avoir une action très concrète en respectant, bien sûr, la position des femmes qui sont les premières concernées, mais de s'engager dans la lutte féministe. De, par exemple, aller construire les comités féministes pour le 8 mars, pour la grève internationale du 8 mars, la défendre dans leur syndicat. Il y a beaucoup de choses à faire, à mon avis, du point de vue des hommes, et le fait qu'ils s'engagent réellement, prennent un risque quelque part, qu'ils remettent en cause un peu leur positionnement de dominant, eh bien, c'est faire le pas supplémentaire qui, pour moi, en fait des véritables alliés.
Constance Etienne.
Oui, j'ai juste un peu peur de cette idée de déclaration d'homme féministe, que ce soit une sorte de ruse du patriarcat, d'effet de mode un peu, parce que on est passé du bûcheron sexy à la chemise à carreaux il y a quelques années. Aujourd'hui, maintenant, on a le nouvel homme antipatriarcal. Donc j'ai un peu peur de ça. Je pense qu'il y a il y a plein de manières en fait d'essayer de se rapprocher de la lutte, bien sûr de redéfinir sa masculinité entre hommes, bien sûr. Je peux pas parler pour vous, mais aussi dans la pratique, ça veut dire se poser des questions. Vous pouvez venir nous poser des questions. Hein. C'est y a pas de, on peut bien sûr écouter, mais vous pouvez aussi venir vous poser des questions, vous renseigner, commencer à être un bon allié, donc renverser un peu le care. Donc ça veut dire l'écoute des deux côtés, la sollicitude des deux côtés, prendre soin des deux côtés, demander par exemple. Combien de victimes de sexisme vous connaissez? Combien d'agresseurs vous connaissez, vous les hommes? Ce genre de questions.
Yvan Jablonka.
Il y a des hommes depuis la Révolution française qui refusent les hiérarchies patriarcales. Ce sont des penseurs de l'égalité, pas simplement des militants associatifs. Condorcet, hein, qui écrit un an avant Olympe de Gouges, Fourier, John Stuart Mill, ou encore Tar Haddad. Et puis il y a aussi des praticiens, hein, des médecins, des gynécologues, notamment dans les années 60 et 70, qui sont d'authentiques...
On peut citer Pierre Simon, d'ailleurs.
Pierre Simon, absolument.
Il y a une plaque qui a été apposée sur le boulevard Saint-Germain, à l'endroit où il vivait. Donc c'était l'auteur du fameux rapport Simon, un très grand gynécologue et défenseur du droit des femmes, en particulier de l'avortement, etc.
Qui ont explicitement contribué à faire reculer les conceptions et les pratiques patriarcales. Alors, ces pionniers avaient l'ambition, en quelque sorte, de mettre à niveau les femmes en termes de droits par rapport à des droits que les hommes possédaient déjà. Et ma différence par rapport à ces pionniers, c'est que eux n'envisageaient pas de changer la vie des hommes. Et je crois que, ça fait partie de ma réflexion, que il est aussi temps de réfléchir sur les masculinités, c'est-à-dire la manière dont les hommes vivent, sur leur autorité sociale, sur leur prépondérance de genre. Et c'est en ce sens que, encore une fois, le féminisme n'est pas mon combat principal. Je suis féministe, mais mon combat principal, c'est repenser ces masculinités, les politiser, c'est-à-dire faire en sorte qu'elles sortent du cadre privé pour qu'elles deviennent un enjeu public, un débat public de quelle masculinité voulons-nous.
Mais se défaire de générations et de générations de droits qui ont été naturels ou pensés comme tels pour les hommes, ça n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que je conçois que c'est un combat, mais c'est un combat délicat, parce qu'il faut faire comprendre aux hommes qu'il faut se défaire du pouvoir d'une certaine façon, et des pouvoirs domestiques, des pouvoirs politiques, des pouvoirs dans la société, etc., etc. Ça n'est pas si simple que ça.
C'est vrai, lutter contre le patriarcat en tant qu'homme, c'est d'abord lutter contre soi-même. Et c'est ce que j'ai voulu dire par l'expression de contre-masculinité. Maintenant, je pense aussi que les hommes ont à y gagner, parce que abandonner le modèle de la virilité obligatoire, ce serait une manière aussi de libérer le genre tout entier. Et je crois que c'est important aussi de montrer aux hommes qu'ils ont intérêt, voilà, que c'est chouette de s'occuper de ses enfants, de cuisiner, et plus largement de concevoir le masculin autrement, c'est-à-dire pas comme étant un synonyme de pouvoir, mais comme un partage ou une réflexion démocratique à plusieurs.
Cette question du pouvoir, elle est centrale dans votre réflexion en tant qu'anthropologue, Mélanie Gouhari, et je donnerai ensuite la parole à Eric Eschimann qui va vous poser.
Oui, tout à fait, elle est centrale, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse à travers l'étude des masculinités, c'est comment fonctionne le pouvoir, et une des choses qui m'a intéressée particulièrement, c'est le pouvoir entre hommes. Il me semble que dans la façon dont on va définir de nouvelles masculinités, notamment dans des masculinités progressistes capables justement d'endosser les causes féministes, il ne faut pas masquer le fait que ces nouvelles types de masculinités se font sur le dos de masculinités qui sont fortement dépréciées, qui n'ont pas nécessairement...
Lesquelles, par exemple?
Des masculinités des classes populaires considérées comme violentes, enfin dont la violence dont la violence est délégitimée, contrairement à la violence des classes en position de pouvoir, qui est une violence légitime et invisible, enfin, qu'on voit plus difficilement, et que cette renégociation des masculinités, il me semble, se fait aussi sur le dos donc de masculinités qui vont se retrouver tout en bas de l'échelle sociale.
Et vous voulez dire que c'est plus simple d'affirmer quand on est professeur d'université, journaliste à France Culture ou journaliste à l'Obs, qu'on est prêt à se défaire de son pouvoir que parce qu'on s'en défait pas vraiment,
et aussi parce que ça il se joue des choses à une autre échelle, pas uniquement à l'échelle individuelle, à une échelle beaucoup plus large sociale de recomposition des hiérarchies et un certain ordre social qui se maintient.
Eric Eschimann.
L'idée qui était, qui apparaît par un petit peu parfois dans votre enquête, dans les témoignages, et qui était une des idées fortes, me semblait-il, de King Kong Théorie de Virginie Despentes, qui était que les hommes aussi ont à perdre au patriarcat, et Yvan en a parlé tout à l'heure. Et qu'au fond, ils ont donc à y gagner, ou certains, ou une partie des hommes. Enfin, voilà, qu'il y a aussi une pression qui pèse sur les hommes. Je vois des choses un peu ambivalentes dans la littérature féministe que j'ai pu voir, avec certaines qui disent on n'est pas là pour libérer les hommes, et d'autres qui disent si, vous auriez gagné. Qu'est-ce que vous en pensez?
Constance Etienne, et puis Aurore Coquelin.
Moi, c'était plus par rapport à ce que vous disiez, le fait que ce soit quelque chose de beaucoup plus large que le simple individu. Je pense que là, ici, chacune peut faire son propre parcours. Je pense que si on veut faire quelque chose de une tendance universaliste, même si j'aime pas du tout ce mot, peut-être venir à un des premiers espaces qui est l'école. Les enfants, je pense que c'est un petit peu important d'en parler, parce que là, ce que vous proposez, par exemple, Yvan, c'est pour aussi pour vos filles, comme vous le dites bien. En tant qu'auxiliaire en éducation en ZEP aussi, j'ai pu mettre en place des ateliers de genre pour des enfants de 4 ans. Et en fait, le consentement, ça arrive à ce moment-là. Et là, c'est à partir de ce moment-là que c'est peut-être plus facile de proposer une définition de la masculinité que d'essayer de la déconstruire à 45 ans, 25 ans, peu importe la classe dont on vient.
Oh, Coquelin.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ces deux interventions. En fait, on pose dans le cadre de ce débat la question au niveau des hommes, au niveau individuel, au niveau du groupe des hommes. Mais en fait, c'est ce que j'essaye de montrer aussi dans mon livre, finalement, ils ne sont que le reflet individualisé de structures qui les ont modelés depuis la petite enfance, via la socialisation, puis via l'ensemble des structures qui maintiennent la domination patriarcale, l'État, l'école, etc. Donc du coup, à un certain moment, à mon avis, il faut déplacer le débat aussi sur comment est-ce qu'on peut changer les structures sociales pour modifier en fait les rapports de genre. Et la question de l'école, de l'éducation, à mon avis, elle est centrale. Et la question aussi de la prise en charge du travail domestique par la socialisation en fait des tâches domestiques via les services publics, par exemple.
Yvan Jablonka.
Je crois que le contexte actuel change aussi la donne. Aujourd'hui, on assiste à une montée des populismes, et les populismes sont par nature une mauvaise nouvelle pour les droits des femmes. Et on assiste aussi à une montée de l'extrême droite, tout particulièrement en France. Et il faut bien voir que l'extrême droite en France est portée notamment par des femmes au Front National, qui ont des responsabilités importantes. Donc,
je n'appelle plus le Front National, mais le Rassemblement National.
Oui, mais en tant qu'historien, j'ai la mémoire un petit peu longue. En tout cas, vous voyez que c'est pas homme contre femme, c'est des projets de société qui s'opposent. Il y a d'un côté un projet de société patriarcale, avec une société où les femmes n'auraient pas de droits, mais simplement des devoirs, une société verticale, et de l'autre, la justice de genre, que je crois, nous sommes tous ici à
table. Qu'est-ce que vous appelez la justice de genre ?
La justice de genre, c'est une société où le sexe n'est corrélé à aucune inégalité sociale. Voilà une définition simple qui définit, qui exprime la justice de genre, ou pour le dire autrement, la volonté systématique de partager la parole, le pouvoir, les richesses, ou encore le sacré, puisque les religions ont un rôle important à jouer. Donc, dans le monde tel que nous sommes, avec une montée dramatique de l'extrême droite, aussi bien en France qu'au Brésil, qu'aux États-Unis, etc., je crois que le féminisme a besoin de toutes les forces aujourd'hui.
Un dernier mot, Mélanie Gouarier, sur ce point, et puis peut-être aussi Constance Etienne, parce que vous travaillez sur la France et sur le Brésil, justement,
sur,
on vous donnera un dernier mot.
Le contexte actuel ?
Oui.
Là, je suis.
Non, bon, alors, Constance Etienne, puisque vous travaillez, Etienne, vous travaillez sur la France et sur le Brésil en tant qu'étudiante en sociologie à l'école des étudiants en sciences sociales.
Aussi brésilienne.
Tu auras la réponse à la question. Ouais.
Oui, je pense que la réponse peut-être qu'on peut essayer de trouver, c'est cette quête aussi de vérité, souvent qui va avec l'idée du populisme, qui est détenteur, détentrice de la vérité, la religion, VS, le monopole des médias et tout. Et heureusement qu'on a les réseaux sociaux aujourd'hui, où on devient émettrice et réceptrice d'informations.
Mélanie Gouarier.
Non, juste un mot, mais je radote. Hein. Il me semble qu'il ne faut pas envisager la question des masculinités engagé dans le féminisme hors sol, c'est-à-dire que enfin, il y a une des logiques sociales qui se rejouent. Il faut pas être aveugle à ces logiques sociales.
Et la question, c'était est-ce que, en reprenant l'idée de Virginie Despentes, les hommes peuvent aussi se libérer d'une pression qui pèse sur eux, même si elle est seconde par rapport à celle qui pèse sur les femmes.
Le problème, c'est que la notion de libération elle-même prend un sens spécifique aujourd'hui dans un contexte où le développement personnel est omniprésent. Donc il faudra développer tout ça et malheureusement, je crois que je n'ai pas le temps.
Vous avez raison. Merci beaucoup Mélanie Gourarier. Je rappelle que vous êtes auteur de Alpha Mal au seuil. Pour votre part, Aurore Coquelin, vous êtes auteur, autrice de Chez Amsterdam de la révolution féministe. Et puis Yvan Jablanca, des hommes justes du patriarcat aux nouvelles masculinités. Merci beaucoup. Et rappelons le dossier donc de l'Obs sur le droit des femmes, avec en particulier un entretien avec l'historienne Christine Barr et un portrait de Marlène Schiappa. Marlène Schiappa fait-elle le job? C'est le titre de l'Obs aujourd'hui, qui était notre partenaire. Merci Eric Eschiman.
Merci.
C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier et Louise André à la technique aujourd'hui. Jean-Frédéric à la réalisation, Marie-Laure Ciboulet à la vidéo, Pierrick Monsigny.